A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du football. Oui, mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Oui, 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 mon petit bonhomme, bravo.
Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en ahanant des râles vulgaires de bœufs éteints? Quand j'étais petit garçon, je me suis cru longtemps anormal. On me disait « à la fille, à la fille !» Tellement l'idée d'anormalité est solidement solidaire de la non-footballité. Quant à la féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi et me pousse au temps chaud à rechercher la compagnie des femmes, y compris celle des vôtres, que je ne rechigne pas à culbuter quand vous vibrez au stade.
C'est un doux euphémisme, Pierre Desproges n'était pas exactement un grand fan de foot. Ce délicieux texte anti-ballon intitulé « À mort le foot », l'humoriste l'a écrit en 86 dans ses chroniques de la haine ordinaire, à l'occasion de la Coupe du Monde au Mexique. 30 ans plus tard, Desproges n'est plus là, mais nul doute que s'il l'était encore, il râlerait contre les dégradantes contorsions manchottes des hordes en caleçonnés sud-oripares qui se disputent sur le gazon l'honneur minuscule d'être champion de la balle au pied, j'y suis arrivé,
oui.
Qui ont également lieu en Russie. En ce moment, bonjour à tous et bienvenue sur Terrain Glissant, le podcast de 20 minutes. Je suis Bertrand Volpillac du service des sports de 20 minutes et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de ceux qui abhorrent, qui exècrent, qui détestent, qui haïssent le football. Sont-ils nombreux? Sont-ils faits comme nous? Doivent-ils se cacher pendant la Coupe du Monde? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Juliette Keating. Juliette, bonjour.
Bonjour Bertrand.
Vous êtes écrivaine et blogueuse. Vous avez notamment écrit des chroniques sur le défunt Sid Bakhchich et aujourd'hui dans le magazine satirique Zélium. Je vous laisse un petit peu nous le présenter.
Oui, Zélium, c'est un magazine satirique qu'on dit irrégulomadaire, puisqu'il ne peut paraître que quand on a le pognon, puisque depuis hier on dit pognon, on ne dit plus les sous. Donc la presse satirique, elle vit difficilement et c'est pourquoi c'est un irrégulomadaire. Alors quand même, le numéro 10 vient de sortir, c'est un numéro spécial sur le travail, puisque les numéros sont toujours thématiques. Donc je vous ai apporté le numéro 10 comme cadeau.
Merci.
Et deuxième cadeau,
c'est Noël.
C'est les numéros spécial Euro 2016,
voilà.
Où on apprend tout sur le sport, le foot et tous ses travers, et avec humour.
Pas que des belles choses sur le football,
pas
j'ai
que
l'impression.
Des belles choses, non.
C'est un peu pour ça qu'on vous a invité, puisque en 2016, juste avant l'Euro qui avait lieu en France, vous avez écrit quelques articles dans Zélium et aussi un texte nommé « Chronique d'une haine extraordinaire », donc un titre en référence à Pierre Desproges,
oui.
Même si vous y évoquez des thématiques un peu plus, comment dire...
Politique
et actuelle oui. Aussi, racisme, dopage,
oui.
Entre autres, et que vous entamez par ces mots « Je hais le foot, j'aborde le culte du ballon rond ». À mes côtés pour cette discussion, Hélène Sergent, journaliste au service police-justice à 20 minutes et détachée sur les questions de société liées au football. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Pendant la Coupe
bonjour
du Monde.
Bonjour Hélène.
Bon, eh bien, on va mouiller le maillot, hein. Allez, allez, on se défonce.
Bon, allez, on y va.
Première question pour rentrer un petit peu dans le débat. La Coupe du Monde est démarrée, elle est commencée,
oui.
Il y a des matchs tous les jours.
Et oui.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au milieu de tout ça maintenant en ce moment? Ça doit être l'enfer.
Oh, l'enfer, peut-être pas, mais c'est vraiment un très très long moment à passer pour les personnes qui n'adorent pas le foot. On mange du foot matin, midi, goûter, souper, dîner tout le temps, toute la journée, même la nuit si on veut. Et grosse indigestion pour les personnes qui sont allergiques à ça. En fait, on mange du foot, mais on n'a pas la possibilité de râler, même si on la prend cette possibilité. Mais à chaque fois qu'on râle et qu'on s'en plaint, eh bien, on est vite taxé de gens pas marrants, d'intellectuels, de racisme de classe, etc. On entend un peu tous les noms d'oiseaux, donc c'est un moment difficile.
On a prévu d'en parler. C'est du matraquage, vous étouffez?
On étouffe, on se sent un petit peu dans une dictature du foot, en réalité, puisque ça nous est imposé et qu'il est difficile de protester. C'est « aime le foot » et puis « tais-toi, subis ».
Alors, est-ce que vous avez développé des techniques pour y échapper pendant un mois de compétition?
Alors, la technique que je recommande, c'est de couper sa télé, couper sa radio, éteindre l'ordinateur et aller vivre sur une île déserte, très loin de toute civilisation. Voilà, non, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas y couper, donc on s'en protège comme on peut, mais voilà, ça fait partie des choses que l'on doit traverser.
Alors, quand on préparait cette émission, la première fois qu'on s'est appelé, vous me disiez que ce n'était pas le côté technique du foot en soi qui vous posait problème, évidemment, ce n'est pas le 4-4-2, le 4-2-3-1, la technique ou la tactique, c'est plus les valeurs que transmet le foot, ou ne transmettent plus, et quelque part aussi, effectivement, le côté partout. Comment vous expliquez votre détestation du foot? Comment elle est née?
Alors oui, vous avez raison de préciser que ce n'est pas une détestation du foot en tant que sport. Évidemment, ce serait ridicule de haïr le foot en tant que sport. En plus, moi, j'ai l'avantage d'être une femme, donc je n'ai pas été soumise à l'obligation de jouer au foot dans la cour de l'école. Donc j'ai été préservée de tout ça. Donc le problème, c'est bien la place colossale que prend l'industrie du sport, l'industrie du foot en particulier, dans nos sociétés et au niveau mondial, en fait. C'est bien ça qui nous gêne, en fait, je pense. Tous ceux qui disent détester le foot, en fait, c'est une façon de s'exprimer qui est maladroite. C'est tout ce que le foot représente dans nos sociétés qui est détestable, selon de nombreuses personnes, tout de même.
Allez-y.
Tout est question d'argent. Il y a évidemment les problèmes liés au sport de haut niveau, le problème du dopage, hein, qui est aussi présent dans le foot. C'est la violence qu'il peut y avoir dans les stades, même si les clubs ont agi pour essayer de réfréner cette violence. Elle est quand même présente. On entend des chansons racistes ou des insultes racistes. On peut entendre aussi des propos homophobes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez désagréables. Et dans les compétitions internationales, comme en ce moment, il y a aussi tout le côté du nationalisme qui est aussi désagréable. Voilà, c'est déjà beaucoup. On pourrait aussi parler du problème de la construction des stades, hein, qui conduit à l'expropriation pour des paysans qui voient le bétonnage partout. Enfin, il y a quand même de nombreux aspects du foot en tant que grande industrie, en fait, qui sont l'objet de détestation pour un certain nombre de personnes, oui.
D'ailleurs, ils détestent le sport. Ils préfèrent s'enfermer des heures au cinéma, c'est ce qui a été les yeux.
Et votre mari, que pense-t-il de tout ça ?
Pour parler de la place que ceux qui haïssent le foot ont dans la société, est-ce que vous vous sentez anormal ?
Anormal, non.
Différente.
C'est le mot que prend des proches dans son texte. Hein, quand il était petit garçon, il se sentait anormal. Mais moi, comme je disais, en tant que femme, c'est mieux admis. Je dirais qu'en fait, on se sent plutôt comme un ennemi, en fait. Moi, j'ai écrit beaucoup de textes satiriques sur tout sujet. Hein, sur tout sujet. Et je dois dire que c'est le texte sur le foot qui m'a valu des commentaires à la fois approbateurs, mais aussi des commentaires violemment contre et même des insultes, en fait. Donc on voit bien à la réaction que ça suscite que toucher au foot, c'est quand même toucher un sujet extrêmement sensible. Et on peut finalement se demander pourquoi c'est si sensible. C'est la question que vous posiez au départ. Hein. Pourquoi le foot est si sensible dans nos sociétés? Chacun a ses réponses.
C'est quoi la vôtre ?
Pour moi, le foot, alors je précise toujours, hein, c'est le foot pas en tant que sport, mais l'industrie du foot. C'est assez symbolique, en fait, d'une sorte de mensonge qu'il y a dans nos sociétés, qui traverse nos sociétés. Parce qu'on nous vend le foot sur des valeurs qu'ils sont censés représenter, mais qui sont sans cesse bafouées. On nous dit que le sport est bon pour la santé. Ben oui, bien sûr, le sport est bon pour la santé, donc faire du foot, c'est un sport, c'est bon pour la santé. Et c'est pourquoi on inscrit nos enfants dans les clubs de foot, c'est sympa pour eux d'aller faire du foot. Sauf que le dopage, c'est pas du tout bon pour la santé, qu'il y a des conséquences après pour les sportifs de haut niveau, et notamment les footballeurs, qui ont subi en fait des traitements médicaux, qui ont subi le sport à haut niveau, qui est usant pour le corps, qui est absolument usant pour le corps.
C'est pas le sport qui est le plus touché, on va dire ça comme ça. C'est les professionnels, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants qui sont touchés par ça, ce ne sont pas. Moi, j'ai fait du foot quand j'étais jeune, je me suis jamais dopé et j'y ai vécu des très beaux moments.
Bien sûr, là il s'agit du foot de haut niveau, du foot de professionnel. Et il y a parmi eux des enfants, ils commencent très jeunes. Hein. Les grands champions de foot ont été champions de foot très jeunes, encore adolescents. Donc lorsque leur corps est soumis à tant d'efforts, on voit les matchs qui se succèdent à un rythme très grand. Il est évident qu'il faut qu'ils tiennent. Donc voilà, on parlait de dopage ou parler de médicaments, je ne sais pas quel mot il est nécessaire d'employer.
C'est tous les sports.
Mais oui, bien sûr.
En fait, finalement, c'est l'industrie
d'accord.
du sport dans son ensemble. C'est juste que le football cristallise parce que c'est celle où il y a effectivement où tout est
x10,
ouais.
Ah, mais c'est vrai. Mais pendant les Jeux Olympiques, on parle aussi beaucoup du dopage pour les coureurs, etc. Pour le cyclisme aussi, bien sûr. Mais voilà. Donc il y a la question santé. On parle de la compétition. Alors la compétition, l'important c'est de participer, etc. Mais on voit pas que l'important c'est de participer en fait. L'important c'est de gagner. Ce qui est important, hein, c'est de remporter la victoire. On est tous d'accord là-dessus. Donc bon, ça nuit un petit peu à l'idée que on est tous contents quand on participe. Non, il faut gagner, à tel point que, bien entendu, la presse a sorti des affaires de matchs truqués, liés à des paris truqués. Donc, il y a aussi des choses comme
c'est
ça dans
le foot.
C'est pas récent, mais c'est toujours.
Oui, bien sûr. Voilà. Non, puis il y en a aussi qu'on ne sait pas.
J'aime pas trop beaucoup ça.
J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
La compétition, c'est mal.
C'est pas mal lorsqu'elle n'est qu'un jeu et lorsqu'elle est honnête. Lorsque ça devient un jeu qui est un jeu cruel, lorsqu'il faut mettre une pression considérable sur les joueurs, sur les supporters, sur tout le monde pour remporter des victoires, et lorsque ça mène à des pratiques malhonnêtes comme le trucage, non, là, c'est pas du tout intéressant, si vous voulez. Je pense qu'il y a d'autres valeurs que pourrait transmettre le football, comme la solidarité, l'esprit d'équipe. Ce serait beaucoup plus intéressant. La solidarité,
c'est
quelque chose.
Elles existent, on les voit. Pour prendre simplement l'exemple le plus frappant de France 98, on en a beaucoup qui ont été transmises à travers ça. Évidemment que c'est l'exemple le plus frappant, mais il y en a tous les jours. Marseille, cette année, en Coupe d'Europe, a transmis des valeurs à sa ville d'une manière magnifique.
Alors, oui, mais alors tant mieux. Et il faut que ça continue comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que effectivement, je me souviens de 1998, Black, Blanc, Beurre. C'était sympa, c'était une ambiance. Je me souviens très bien. En plus, j'étais enceinte de mon premier enfant, donc il y a tout ça autour. Mais c'était il y a longtemps. La situation, je trouve pas qu'elle se soit beaucoup améliorée dans la société française. Et c'est récemment qu'on a encore entendu des propos racistes lancés depuis les tribunes sur des joueurs. Je suis contente que vous me parliez de l'OM d'ailleurs, parce que l'OM fait preuve effectivement de solidarité. Et là, tout récemment, j'étais vraiment très très contente de voir que le club de l'OM a invité dans son stade les enfants des bidonvilles qui habitent justement à Marseille. Et ça, c'est un courage parce que ces enfants sont parmi la population la plus pauvre, la plus opprimée. Et le président de l'OM a eu ce courage d'aller chercher et de les montrer au stade. Et ça, c'est un exemple de solidarité et qu'on aimerait voir plus souvent, comme on dit.
Alors, vous disiez quelque chose d'assez intéressant parmi les critiques récurrentes et celles qui reviennent le plus souvent quand on ose affirmer sa détestation, entre guillemets, du foot. C'est la question du mépris social, du snobisme, de la critique de l'intelligentsia récurrente. Il y a un passage qui m'a marqué dans le billet que vous aviez écrit. Alors, on rappelle que c'est de la satire. Le billet qui avait été écrit en 2016 au moment de l'Euro. Vous écrivez « J'exècre les « on a gagné » des piliers de bistrot aux maillots floqués tendus sur leurs gros bides, réunis comme des bœufs à la mangeoire devant les écrans géants. » Est-ce que, malgré la caricature, malgré la satire, évidemment, on peut reconnaître dans cette détestation du foot une forme de mépris de classe ?
Alors non, je crois pas du tout que ce soit du mépris de classe en réalité. Là, effectivement, dans cet extrait que vous avez cité, qui est frappant et qui est un peu imité de Desproges quand même, dans ma tête, il y a ce quartier de la Porte de Saint-Cloud. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est là où il y a évidemment le Stade du Parc des Princes. Et lorsqu'il y a un match dans le Stade du Parc des Princes, tout le quartier est bouclé. Donc finalement, pour les habitants de ce quartier, la Coupe du Monde, c'est souvent parce que le quartier est bouclé, on peut plus garer sa voiture, on peut plus circuler, on peut plus marcher à contresens parce que la police empêche de marcher à contresens pour rentrer chez soi. Enfin, des choses qui se paraissent invraisemblables à ceux qui n'habitent pas près d'un stade. Donc effectivement, ça énerve un petit peu, ça agace. De là, voir un mépris de classe, je ne crois pas. On oppose souvent, voilà, les partisans du foot, les footeux, les amateurs de foot aux intellectuels, mais c'est pas très sérieux. D'une part, il y a des intellectuels qui ont aimé le foot. Je vais rappeler l'exemple d'Albert Camus, que tout le monde connaît, qui était un grand amateur de foot. Mais surtout, bon, voilà, c'est une critique qui va dans l'anti-intellectualisme qui a cours de nos jours et qui n'est pas en fait très sérieux pour moi. C'est absolument pas ça, parce que c'est vrai que le foot est un sport populaire. Et c'est ça qui est sympa dans le foot. Les classes populaires, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec les grands argentiers du foot ? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec les princes qataris, les classes populaires, ou les milliardaires russes, ou les pontes de la FIFA ? Enfin, voilà, donc, oui, c'est quelque chose qu'on entend effectivement, et je vous remercie de m'avoir posé la question, mais non, c'est trop facile, en fait, cette critique-là. Je crois que ça, c'est pas juste.
Ah là 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 ! Arrêtez-le ! Arrêtez-moi ce ballon immédiatement ! Je le tiens, chef !
Est-ce que, quelque part, on peut vous faire le reproche, par exemple, de ne pas aimer le foot ? Parce que vous avez fait des études, parce que vous critiquez des gamins qui n'en ont pas fait, voilà. Effectivement, ces joueurs, ils sont un peu victimes d'un système. Bon, voilà, mais eux, quelque part, ils s'en sont surtout sortis du système, ceux qu'on voit à la Coupe du Monde,
oui.
Par le biais d'un ascenseur social incroyable.
Oui, mais c'est un ascenseur social qui n'a pas beaucoup d'étages et qui est surtout d'une dimension très très
bien
restreinte.
Bien sûr.
Ils n'ont pas fait d'études. Je nuancerai en fait votre propos parce qu'on voit bien que la formation des footballeurs est aussi une formation intellectuelle, hein, et qu'il y a dans les centres de formation des cours de culture générale, des cours de français, des cours de toutes choses, et que aussi quand on a un jeune qui veut aller dans ces centres de formation, on regarde son bulletin scolaire. Donc voilà, donc je crois pas du tout en fait que les footballeurs soient des gens qui n'ont pas de culture et qui n'ont pas fait d'études. Au contraire, j'ai une grande confiance dans leur capacité à réfléchir justement à leur pratique, et on le voit avec certains ex-footballeurs qui s'engagent sur des causes, qui s'engagent dans des activités de lutte contre le racisme, comme Lilian Thuram ou autres.
Parmi les critiques du football, il y a quand même un présupposé qui consiste à dire que, ou à remettre en cause l'intelligence des joueurs, leur capacité à remettre justement en question quand ils sont, qui sont partie prenante du système dans lequel ils évoluent, pas les joueurs à la retraite, les joueurs qui sont vraiment en train d'évoluer dans ce secteur-là. Moi, je trouve qu'il y avait une critique qui était assez intéressante, qui avait été faite aussi en 2016 par Philippe Guibert, qui avait écrit un papier pour Slate à l'époque, qui parlait de la footophobie et qui s'intéressait un peu à la spécificité française. Lui, il explique que ce qui est particulier dans la société française, c'est qu'on... Souvent, on sépare l'intelligence corporelle de l'intelligence pratique. Et il prend l'exemple, je trouve, qui est très parlant, de la place qui est laissée au sport dans nos grandes formations très prestigieuses, l'ENA, Sciences Po, Normal Sup. Et il la compare avec celle qui est donnée dans les grandes universités anglo-saxonnes, Oxford, Cambridge, où le sport de haut niveau et les études de haut niveau ne sont pas du tout dissociés, alors que chez nous, c'est quand même très accessoire. En ça, ça peut véhiculer quand même une espèce de séparation entre les amateurs de sport, les amateurs de football et toute une classe, entre guillemets, dirigeante et une classe intellectuelle.
Oui, il y a une culture différente entre la France et l'Angleterre dans sa relation au sport. Il est vrai qu'en Angleterre, dans les grands collèges anglais, il y a des équipes de rugby notamment qui sont importantes et qui ont beaucoup de valeur aux yeux des éducateurs anglais. C'est très, très important pour eux de s'engager dans l'équipe de rugby et de manifester ses talents de rugbyman. Ici, nous avons une culture qui est un petit peu différente, c'est vrai. Et est-ce que c'est là que se loge la séparation entre les fameux intellectuels anti-foot et... Non, je crois pas. Je crois que c'est assez... autre chose en fait. Et pour reprendre ce que vous avez dit sur les joueurs, encore une fois, j'insiste pour dire que non, la critique de l'intelligence, du manque d'intelligence des joueurs, je ne l'entends pas. Cette critique-là, elle est plutôt liée aux pratiques et au comportement des supporters. Voilà. Il y a effectivement là l'effet de groupe, l'effet de meute. On a vu quand même des supporters ultra avoir des comportements très très désagréables à une certaine époque. Et c'est là-dessus en fait que se fonde plutôt cette critique du manque d'intelligence. Alors évidemment, il faudrait dire ce qu'on entend par là.
J'aime pas le foot.
Oh, allez, viens. Allez.
Ouais, 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 t'as raison, ouais, 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 repose.
Non, j'aime autant pas.
Est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale, et on en parlait avec les universités anglaises, c'est aussi le cas aux États-Unis où le sport fait vraiment partie du cursus, et c'est même grâce au sport qu'on obtient des bourses, de valorisation du sport et du sportif, de sa parole aussi. Le sportif aux États-Unis, sa parole est, alors je dirais pas d'or, mais disons qu'elle est importante dans le débat social. Est-ce que le sportif a une place assez importante dans la société chez nous? Est-ce que c'est pas à cause de ça, de cette place peu importante, qu'on trouve tous les défauts au football un petit peu?
Alors, je crois que la place du sport en général et du football en tant que sport parmi les autres sports est grandissante en fait dans notre société. On le voit notamment à partir de l'exemple du professeur de sport dans les collèges français, par exemple.
Je vois où vous allez.
Voilà, les professeurs de sport autrefois, ils étaient très moqués, éventuellement considérés comme des sous-profs. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le professeur de sport a un rôle central dans l'éducation des enfants. Les méthodes employées par les professeurs de sport sont données en exemple, à tel point que ça peut énerver les autres professeurs des autres disciplines en disant « mais voilà, on doit tout faire comme en EPS alors maintenant ». Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer. Et donc le regard sur le sport change complètement. Maintenant, ça ne va pas ôter tout ce qu'on peut reprocher au sport international, au sport de compétition de haut niveau, à la corruption qui a infesté tout le sport professionnel et qui va être là et qu'il faut absolument éradiquer en fait, parce qu'il est là en fait le fond du problème.
Est-ce qu'on peut être très critique à l'égard du milieu footballistique et du secteur et de toutes les valeurs que ça ne véhicule pas justement et celles qui sont véhiculées par ce milieu-là et quand même vibrer devant un match de foot? Est-ce que c'est compatible?
Oh oui, bien sûr, on peut se prendre au jeu, surtout quand on est environné de gens qui sont dedans et pour lesquels c'est une joie d'assister à un match. Oui, bien sûr, on peut vibrer à un match de foot, c'est pas un problème.
Vous allez regarder des matchs? La France.
Pour l'instant, je n'ai absolument rien prévu. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en France actuellement. Il y a beaucoup de problèmes qui sont gravissimes. Voilà, donc le foot n'est pas si important que ça en réalité. Donc, c'est ça aussi qu'on reproche au foot. C'est le foot écran de fumée, le sport écran de fumée qui, pendant un mois, nous empêche de penser à la casse, du service public, à l'accueil des migrants et à tous ces problèmes qui, en fait, sont présents au quotidien pour les gens en France.
Quel match? Un match de quoi? De foot, de tennis, de waterpolo, de quoi?
Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
Est-ce que c'est pas un peu notre faute à nous aussi, les médias? Est-ce qu'on en fait trop sur le foot? On suit les audiences aussi d'une manière ou d'une autre, même si, est-ce qu'on a une forme de responsabilité dans cet étouffement footballistique?
Je pense qu'on a tous une forme de responsabilité. Évidemment, quand on sait les prix payés par les chaînes pour retransmettre les matchs de foot, ce sont des sommes colossales. Entrer dans ce jeu et le maintenir, c'est effectivement à mettre en question. Hein. Pourquoi est-ce qu'on accepte de payer tant? Alors, ça fait de l'audience, ça fait de la publicité, des espaces publicitaires, effectivement. La hiérarchie des informations, elle est pas seulement pendant la Coupe du Monde. Hein. On critique aussi l'ouverture des journaux télévisés par les faits divers, et puis les sujets plus graves, plus importants, et dont les conséquences sont beaucoup plus grandes, sont expédiés par après. Maintenant, est-ce que la presse est si libre de faire comme elle veut? Parce que la presse indépendante, elle est irrégulomadaire, comme pour Zélium. Et sinon, on est quand même confronté à des demandes et à des pressions, je pense.
Est-ce qu'on peut nier les belles choses qu'ont amené le football? Alors, on parlait de 98. On a tous des souvenirs d'enfance nostalgiques, des communions collectives, que ce soit sur la place de son village, que ce soit aux Champs-Élysées en 98. Il y en a eu d'autres. Est-ce qu'on peut nier ça?
Alors non, puisque effectivement, il y a des grands mouvements de foule, des grands mouvements de rassemblement, mais c'est extrêmement éphémère. Hein. On parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde 98.
C'est pas au foot de faire... Le foot donne des joies éphémères, mais c'est pas au foot de créer des joies plus durables ou des...
Oui, mais si c'est de l'éphémère, alors pourquoi donner autant d'importance à... On tourne... Enfin, voilà, vous voyez le nœud. Quoi. Si c'est des joies éphémères, bah, tant mieux, profitons-en. Une joie éphémère, c'est toujours bon à prendre. Mais elle est éphémère. Et le côté toute la France, toute la nation s'unit derrière son équipe de foot, on voit bien que ça ne tient pas très très longtemps la route. Et il suffit qu'il y ait un joueur de foot d'ailleurs qui ne fasse pas très bien ce qu'on attend de lui et aussitôt tout lui tombe dessus. Donc cette union, elle est vraiment de façade. C'est vraiment un peu de la poudre aux yeux. Et non, je suis d'accord avec vous sur l'importance dans l'enfance, des souvenirs d'enfance. Mais ça, c'est le football comme on aime bien. C'est le football du petit club, c'est le football amateur, c'est le football où c'est encore calme. Et puis bon, les étoiles, bah, c'est les étoiles.
On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Julien Keating. Merci
Hélène. À vous.
Merci.
À bientôt pour un prochain épisode de Terrain Glissant. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Du football. Oui, mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Oui, 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 mon petit bonhomme, bravo.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.